France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Il est présent chez tous les animaux, ou presque. Le sens de l'équilibre, c'est l'un des sens à être apparu en premier. Oui, le mouvement est la base de la vie animale. Le système vestibulaire est un système très ancien et pourtant, la recherche s'y intéresse depuis peu. Peut-être que pour vous aussi, la vision d'un patineur artistique capable de tournoyer et de faire 342 rotations par minute vous donne le tournis. Vous pour qui la simple lecture d'un livre en voiture vous rend malade. Parfois qualifié de sixième sens, c'est un mécanisme physiologique complexe. Et dans nos sociétés vieillissantes, les troubles vestibulaires sont en passe de devenir un véritable enjeu de santé publique. On estime qu'un tiers de la population consultera pour ce type de problème au cours de sa vie. À partir de quand le déséquilibre devient-il pathologique? Sens de l'équilibre, tournez méninges. Mathieu Beranek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurophysiologique et directeur de recherche au CNRS et responsable d'équipe, The Spatial Brain, à l'Université Paris-Cité. Nous sommes en ligne, en duplex, depuis Aix-en-Provence, avec Christophe Lopez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuroscientifique, spécialiste du système vestibulaire et directeur de recherche au CNRS dans l'équipe corps et multisensorialité. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous également d'être là à l'écoute en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur Blue Sky également. On poste pour vous sur notre compte @sciencesCQFD des liens, des bonus et on fait ça pour vous. Tous les jours. Alors, quels sont les différents troubles de l'équilibre et quelles en sont les causes? Comment le système vestibulaire est-il étudié? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Mathieu Beranek, est-ce qu'on peut parler d'un véritable sens? Le sens de l'équilibre, comme l'ouïe, l'audition?
Alors, on peut sans doute parler de sens de l'équilibre parce que c'est un terme que on connaît tous, que la population générale utilise. Hein. On a bien le sens de l'équilibre. Si on voulait être un peu biologiste et s'attacher à quelles sont les propriétés qu'il faudra avoir pour être un sens, bon, on commencerait par dire qu'il faut des organes. Et là, on a des organes sensoriels, on va en parler, hein, qui permettent de déterminer finalement un sens. Il y a toute une chaîne de neurones, là aussi, qu'on verra sans doute ensemble, qui traite cette information. Et donc, on pourrait penser que c'est un sens. Souvent, moi, j'explique à mes étudiants que ce qui fait la différence par rapport aux cinq sens qu'on connaît tous, c'est premièrement le fait que on a du mal à verbaliser le fait qu'on a le sens de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a plutôt un sens du déséquilibre. On prend conscience qu'on perd l'équilibre, mais autant on peut dire je vois, j'entends, je sens, autant on sait pas dire quoi. J'équilibre, je suis droit, je tiens debout. Voilà, on n'a pas vraiment les mots. Donc ça c'est lié en partie au fait que c'est un sens qui est un peu caché, quoi, qui nous reste caché. Et puis pour rester un peu sur la neurophysiologie, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est le fait l'équilibre d'être multisensoriel. Donc il y a les informations vestibulaires dont on va beaucoup parler, mais on tient debout aussi grâce à l'ensemble du corps, la proprioception et puis la vision évidemment.
Un sens en effet à proprement parler, puisque l'équilibre repose donc sur un organe dédié, le système vestibulaire. Allez, petite anatomie avec notre archive du jour, nous sommes en 1969.
Tout d'abord, je pense que je pourrais rappeler quelques notions d'anatomie et de physiologie de l'équilibre. Le labyrinthe est un organe qui contient la cochlée et le vestibule, la cochlée étant l'organe sensoriel de l'audition, le vestibule, celui de l'équilibre. Ce vestibule comprend en réalité trois parties. La plupart d'entre vous, je pense, savent qu'il existe des canaux semi-circulaires au nombre de trois, chacun d'eux correspondant théoriquement à l'un des trois plans de l'espace. Il existe également deux autres parties, l'utricule et le saccule. Dans chacune de ces formations, existent des cellules sensorielles. Pour les canaux semi-circulaires, ces cellules sensorielles sont recouvertes d'une cupule. L'utricule et le saccule, ils sont recouverts d'une formation analogue, la macule. Théoriquement et de façon aussi très schématique, on peut dire que lorsque sous l'action de la mouvance des liquides labyrinthiques, les cellules, les cils des cellules sensorielles se déplacent, il y a une modification de la cupule au niveau des canaux, et de là, une incitation va partir qui, ultérieurement, lorsqu'elle arrivera au cortex cérébral, donnera la notion consciente de telle ou telle position dans l'un des trois plans de l'espace. Pour l'utricule et le saccule, ce sont des phénomènes analogues qui se passent, un peu différents cependant, et eux donneront la notion, toujours de façon très théorique et un peu trop imagée à mon sens, du déplacement suivant un axe, un plan vertical plus exactement.
Voilà un extrait de l'émission Biologie et médecine sur France Culture en 1969. Christophe Lopez, on parle parfois à tort d'oreille interne, mais en fait, pour être plus précis, l'appareil vestibulaire se trouve à cheval sur l'oreille interne et l'oreille moyenne. On parle aussi de labyrinthe.
Pour reprendre l'écoute de cette archive.
Ça a été bien décrit dans l'archive. On a donc des capteurs de mouvement qui constituent ce système vestibulaire périphérique qui se trouve au niveau de l'oreille interne. La partie de l'oreille moyenne, elle va servir à transmettre les sons jusqu'à l'oreille interne. Mais juste à côté de ces récepteurs qui sont bien connus de l'audition, la cochlée, on a un ensemble de structures sensorielles qui vont détecter les mouvements du corps. Donc au niveau de cette oreille interne, ça veut dire, on parle d'oreille interne parce qu'elle est cachée en fait dans l'os. Il s'agit d'un ensemble de cavités qui sont creusées dans l'os temporal, extrêmement bien protégées, dans la partie la plus dure de l'os temporal, pour préserver ces capteurs extrêmement sensibles et extrêmement précieux pour notre sens de l'équilibre.
Pour compléter cette archive, Mathieu Béranet, comment ça fonctionne cet appareil vestibulaire? On a trois canaux semi-circulaires, trois boucles qui sont placées le long des trois dimensions dans l'espace. C'est ça un peu ce qui nous sert de boussole dimensionnelle.
Alors, c'est les trois canaux semi-circulaires qui effectivement sont orthogonaux entre eux, qui permettent de coder les rotations de la tête dans l'espace. Et à côté de ça, on a deux autres, disons, organes, les otolithes, qui eux détectent les accélérations linéaires et notamment la gravité et notre position par rapport à la gravité. Et ça, c'est une notion importante parce que et là aussi, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais ça nous donne un premier repère spatial, hein, vraiment pour se situer dans un environnement. Et donc il faut insister, on a bien dit qu'on avait trois canaux semi-circulaires et deux organes otolithiques, donc on est bien sur cinq organes différents dans chaque oreille. Donc si on fait les maths, ça fait 5 x 2, on a 10 organes vestibulaires. Donc vous voyez, pour en revenir à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'on a un sens de l'équilibre, ben on en a plusieurs en fait, hein, puisqu'on a ces 10 organes qui doivent travailler ensemble pour permettre au cerveau de se repérer dans l'espace. Et comment est-ce que ça fonctionne? Bon, on l'a entendu dans l'archive, hein, il y a des cellules ciliées qui réalisent ce qu'on appelle la transduction. Ça veut dire que à partir d'un mouvement, du mouvement de la tête dans l'espace et du mouvement de liquide ou bien de petites concrétions calcaires qu'on a au niveau de l'oreille, ces cellules ciliées, comme des algues dans la mer, si vous voulez, vont être entraînées et ce mouvement va être transformé en signaux électriques. Et à partir de là, c'est avec de l'information électrique qu'on va informer le reste du cerveau de comment est-ce qu'on est en train de bouger.
Ah là, vous utilisez l'image des algues dans la mer. Christophe Lopez, je suis obligé de me tourner vers vous et d'évoquer l'arbre du vivant, parce que ce sens de l'équilibre, il est présent chez tous les animaux, ou presque, hein, peut-être à l'exception de l'éponge.
Oui, c'est extrêmement intéressant de voir que c'est un sens qui est extrêmement ancien dans l'arbre du vivant, comme vous le dites, non seulement chez les animaux, mais même chez les plantes, puisque les êtres vivants, la plupart des êtres vivants, ont cette contrainte de s'orienter par rapport à la gravité. Donc c'est extrêmement important pour survivre de savoir où est le haut, où est le bas dans le champ gravitaire terrestre. Et donc toutes sortes d'animaux, des plus rudimentaires comme les méduses par exemple, ont développé des capteurs qui sont sensibles à l'accélération de la gravité. Donc on retrouve déjà chez ces animaux assez simples dans leur structure, on retrouve déjà cette base des capteurs qui ont été décrits dans l'archive, des capteurs autolytiques, l'utricule et le saccule, qui vont détecter l'accélération de la gravité. Donc c'est basé en fait sur un principe très simple, c'est que au niveau de certaines cellules, on va avoir des amas, des particules qui sont assez denses, et ces particules vont se déplacer sous l'effet de la gravité. Le déplacement de ces particules va activer des cellules qui vont être spécialisées dans le codage du mouvement, et ça va nous donner une indication de où est le haut, où est le bas. Pour visualiser un peu ça, c'est ce qui se passe si vous regardez un niveau à bulle. Vous allez voir cette bulle qui va se déplacer dans le niveau à bulle sous l'effet de la gravité. Ça vous donne une indication de la verticalité, de l'horizontalité. Donc on a quelque chose de très similaire qui a été sélectionné au cours de l'évolution. Et c'est intéressant de voir que c'est un type de codage assez préservé chez un grand nombre d'espèces. Donc je vous parle des méduses parce que ce sont des animaux primitifs. C'est-à-dire que ce sont des codages qui sont apparus il y a plus de 600 millions d'années. Et on retrouve dans la lignée animale ce genre de codage assez bien préservé jusque à nous, puisque on a également donc des capteurs qui vont détecter des petits mouvements de cristaux assez denses que nous avons dans l'oreille interne et qui se déplacent et qui s'inclinent en fonction des mouvements de la tête, de l'inclinaison de la tête dans le champ de la gravité. Donc effectivement, on a des capteurs très très anciens sur le plan de l'évolution.
Christophe Lopez, toujours sur le plan de l'évolution, un signe que c'est très ancien, c'est aussi qu'on trouve ça au niveau du tronc cérébral, là où sont toutes les fonctions les plus anciennes, respiration, thermorégulation, etc.
Et on va trouver des projections, des informations qui viennent des canaux semi-circulaires de l'utricule et du saccule vers ces structures, on pourrait dire assez primitives, du tronc cérébral. Et à partir de là, on a un système vraiment tentaculaire qui inonde le cerveau d'informations de mouvement et sur des structures très importantes, anciennes, comme le cervelet, par exemple, qui est probablement connu des auditeurs.
Mathieu Béranec, sur justement l'ancienneté de ce système, ça veut dire que finalement une souris, ça n'a pas du tout la même vision que nous par exemple, mais quasiment le même système vestibulaire.
Oui, c'est ça. Chez les vertébrés, l'oreille interne est remarquablement conservée. Et les vertébrés, ça représente une très grande partie des animaux. Et donc effectivement, les principaux modèles animaux qu'on utilise en recherche, tout le monde va penser à la souris ou au rat, mais c'est vrai aussi de par exemple de grenouilles ou de crapauds, vont avoir des structures au niveau des organes qui sont proches des nôtres, et donc ça permet de faire de la recherche fondamentale sur ces modèles animaux en espérant comprendre quelque chose de ce qui se passe dans l'oreille de l'homme.
Comme ça, on pourrait croire dans cette histoire que la station debout, la bipédie, aurait impacté le développement de notre sens de l'équilibre. Pas du tout, ce que vous êtes en train de nous expliquer, Christophe Lopez, par rapport justement à la complexité de ces organes, on parle d'un mécanisme physiologique étendu quand même, on a un très grand nombre de voies physiologiques impliquées dans ce sens-là.
Oui, alors on a un grand nombre de voies qui sont impliquées dans l'équilibre en général, donc des voies réflexes qui vont donc amener l'information depuis le tronc cérébral vers les muscles de la posture, les muscles des jambes. Donc on va avoir un tonus musculaire pour éviter de s'effondrer sous l'effet de la gravité. On va avoir des réflexes qui vont nous aider à nous équilibrer, c'est-à-dire que si en marchant et en trébuchant, on a une accélération qui est détectée, une instabilité qui est détectée au niveau de la tête par les capteurs vestibulaires, on va avoir des réflexes qui vont se traduire par des contractions des muscles qui visent à nous ramener verticaux. Et puis, on a aussi un grand nombre d'autres voies vers des structures très nombreuses du système nerveux central. Par exemple, des structures qui sont en lien avec le contrôle des mouvements des yeux, du regard. C'est-à-dire que lorsqu'on bouge la tête, on doit stabiliser l'image sur la rétine. C'est-à-dire que si je tourne ma tête, vous pouvez l'essayer hein, en même temps, si vous tournez rapidement votre tête vers votre droite, vous voyez que l'image a l'air de... Le champ visuel glisse vers la gauche d'une certaine façon. Il faut empêcher ce glissement de l'image sur la rétine. Donc on a là aussi des réflexes qui vont nous aider à stabiliser le regard. Et puis on a aussi des projections vers de ces informations vestibulaires vers des centres, on pourrait dire, un peu supérieurs du cortex cérébral, qui nous aide à utiliser l'information de mouvement pour nous représenter un peu plus consciemment la position, les mouvements du corps dans l'espace, mémoriser les trajets que l'on fait lorsqu'on marche, par exemple. Et puis, on a des liens, et ça, on l'a tous ressenti, assez forts entre ce système vestibulaire périphérique et les structures du cerveau qui sont impliquées dans ce qu'on appelle le système neurovégétatif, c'est-à-dire le système qui est impliqué dans la régulation de grandes fonctions comme, par exemple, la pression artérielle, les émotions d'une façon générale ou la nausée. Donc, on voit bien que lorsqu'il y a des mouvements, on peut ressentir une nausée, une gêne, un mal au cœur. Donc, on voit des liens très, très forts aussi entre ce système qui détecte les mouvements et des réactions neurophysiologiques qui entraînent des réponses émotionnelles positives, négatives, en fonction des situations et en fonction des individus aussi.
À propos de mouvement, comment est-ce qu'on explique le mal de mer, le mal de ski, le mal de terre ?
Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Comment fonctionne notre système vestibulaire responsable du sens de l'équilibre ? C'est la question que l'on se pose en direct sur France Culture avec Mathieu Béranec et Christophe Lopez. On vient de décrire les 10 organes qui travaillent ensemble pour ce sens-là. Et pour résumer, système vestibulaire, proprioceptor et vision travaillent ensemble pour assurer à la plupart des animaux le maintien de leur équilibre. Et ben voilà le problème. Dans un système aussi complexe, la possibilité qu'une erreur survienne est logiquement très élevée. On peut commencer par parler des cinétoses. Mathieu Béranec, les cinétoses, c'est un peu quand notre cerveau perd pied.
Oui, complètement. Alors déjà, le terme cinétose, qu'est-ce que ça représente ? Eh ben, ça représente le fait de se sentir mal alors qu'on est en mouvement, alors qu'il y a du mouvement. Et donc, on a dit tout à l'heure que le sens de l'équilibre était un sens multisensoriel. Ça veut dire que en permanence, le cerveau doit faire des comparaisons entre les informations qui arrivent de l'oreille interne, la vue, la proprioception, et que en cas de conflit, il faut signaler qu'il y a un conflit. Et c'est un petit peu ça l'idée des cinétoses et du mal de mer. C'est on ressent le fait que par exemple, si on prend l'exemple du mal de mer, c'est quelque chose que beaucoup d'auditeurs ont ressenti. Le mal de mer, vous êtes dans un bateau, le bateau tangue, gîte, et vous ne voyez pas l'extérieur du bateau. Et là, votre oreille interne va percevoir les mouvements du bateau, mais le système visuel va vous dire non, en fait, par rapport à la cabine, là, on est stable. Et c'est encore l'hypothèse dominante aujourd'hui que c'est conflits sensoriels qui génèrent le mal des transports, en fait.
Et ce conflit sensoriel, par exemple, le mal de terre, où justement on a ce mal de mer qu'on ramène sur place à quai. Comment ça s'explique?
Alors,
ça
oui,
aussi
effectivement. Alors, celui-là est un petit peu plus difficile, hein, le mal de terre. En fait, ça marque que le fait que le cerveau s'adapte à l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc, si on est sur un bateau pendant plusieurs heures et qu'on reçoit ces signaux qui sont un peu rythmiques de mouvement, le cerveau, et je pense que ça se passe pas mal au niveau du cervelet, va s'adapter à cette condition. Et à chaque fois qu'on adapte le cerveau, on va avoir besoin, lorsqu'on sort de cette situation, de se réadapter. Hein, il y a une adaptation et réadaptation. Ce sera le cas aussi lorsqu'on va aller dans l'espace. On va s'adapter à l'espace. On a besoin de se réadapter lorsqu'on va revenir sur Terre. Je parle de l'espace. On a le mal de l'espace comme on a le mal de mer. Hein. Chaque fois qu'on change en fait d'environnement, on peut se retrouver en cinétose.
Et on reviendra évidemment sur les expériences menées dans le spatial, mais Christophe Lopez, vous aussi, votre regard sur ces mal des transports, on évoque le mal de mer, le mal de terre, puis le mal de ski également.
Oui, c'est vrai. Ben, toutes ces situations qui sont finalement assez inhabituelles sur le terme de l'intégration des différentes modalités sensorielles qui participent à l'équilibre, peuvent donner, chez certaines personnes qui sont plus sujettes à ça, ces cinétoses. Alors, ça peut être, dans certains cas, sur la mer, dans d'autres cas, sur des skis, etc. Parce qu'on a des habitudes assez différentes. Donc, par exemple, pour le mal de ski, ça peut arriver plus tôt lorsqu'il y a du brouillard. Ça veut dire qu'on a moins d'informations fiables qui proviennent de la vision. On doit essayer d'utiliser les informations qui viennent des muscles, de la proprioception des jambes, mais là aussi c'est pas très très fiable parce que on a nos pieds qui sont dans ces chaussures, on a l'habitude normalement de sentir ce qui se passe sous la plante des pieds lorsqu'on déroule le pas, là ce n'est plus le cas. Donc dès qu'on se retrouve dans ces situations assez inhabituelles, ça change totalement ces représentations du mouvement et ça peut se traduire effectivement par des nausées, une envie de vomir, etc.
Il y a même la cybercinétose, hein, ces effets qui surviennent quand on joue aux jeux vidéo avec des casques VR de réalité virtuelle. Mathieu Béranec, qu'est-ce qui distingue finalement de la cinétose et le vertige, hein, un vertige qui peut justement être préoccupant d'un point de vue médical.
Oui, alors finalement les cinétoses. On est dans une situation qui n'est pas anormale. Hein. C'est une situation physiologique, disons. C'est la capacité du cerveau, comme l'a dit Christophe, à intégrer différentes entrées sensorielles. Les vertiges, ils apparaissent en situation pathologique. Donc lorsque il y a une maladie, un problème qui survient. Notamment au niveau de l'oreille interne, mais il y a des vertiges qui sont pas du tout liés à l'oreille interne, hein, qui peuvent être liés à d'autres zones du cerveau. Et alors le vertige, qu'est-ce que c'est? C'est une illusion de mouvement en fait. C'est-à-dire que c'est des signaux qui sont interprétés de manière erronée par le cerveau comme des signaux de mouvement. Donc ça peut venir par exemple d'un déséquilibre qu'on aurait entre le codage des deux oreilles, issu des deux oreilles internes. Hein, puisqu'on a dit qu'on avait ces 10 organes, 5 de chaque côté, ils travaillent ensemble. Mais s'il y a une pathologie qui arrive d'un côté, on crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il va être interprété par le cerveau comme la présence d'un mouvement, l'illusion d'un mouvement, si vous voulez. C'est une interprétation erronée. Voilà.
Les vertiges peuvent en effet être symptomatiques de nombreuses pathologies, comme le vertige de Meynier.
Le vertige de Meynier, c'est mal identifié, on ne sait pas trop ce que c'est, et c'est pour ça que nous sommes tellement désemparés pour le traiter. On propose des traitements médicaux, des traitements chirurgicaux, et en fait c'est une maladie psychologique, et si on prend cette dimension, on y arrive. Et c'est celle-là que j'ai aimé développer. Et seulement pour ceux qui ont des vertiges, il y a une loi absolument impérative. On ne peut pas donner l'étiquette d'un vertige de Meynier un matin se levant en disant « Tiens, je fais un vertige de Meynier ». Il faut absolument l'avis d'un spécialiste. Parce qu'en dessous, sous l'apparence des vertiges, il peut y avoir des maladies très graves. Donc dès qu'on a un vertige, quel qu'il soit, on va voir un otorhinolaryngologiste. C'est lui qui posera l'étiquette.
Ah oui, le vertige peut être un signal, le signal de quelque chose d'autre.
C'est le signal, oui, bien sûr. Aussi. Il y a beaucoup de pathologies lourdes et de temps en temps, on se contente, j'ai quelques vertiges, ça va bien. C'est toujours l'oreille qui est en cause. Mais quand c'est l'oreille par désordre psychologique, elle ne fonctionne plus, on a les quatre fers en l'air. Mais s'il y a une tumeur derrière, on a aussi les quatre fers en l'air, mais c'est parce qu'il y a une tumeur.
Ah oui.
Donc si on ne fait pas attention, on risque des ennuis. Il peut y avoir des atteintes virales, il peut y avoir d'autres atteintes. Si bien que vraiment, celui qui va donner la clé de l'ouverture sur une cure, ça va être le spécialiste, le médecin spécialiste. Et même le médecin, des fois, qui n'a pas l'habitude, risque d'être un peu désemparé. C'est vraiment très spécialisé. Alors maintenant, nous avons une batterie de tests qui nous permettent de savoir ce qu'est un vertige de Meynière. Mais une fois qu'on a le diagnostic, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi, quelle origine, d'où ça vient. Et je pense que la clé que nous avons eue, eh bien, c'est de découvrir qu'il était psychologique.
Voilà un extrait de l'émission Le Magazine de Radio Bleu en 1989. Christophe Lopez, en effet, la maladie de Meynière, c'est une maladie chronique particulièrement liée au sens de l'équilibre.
Oui, effectivement, c'est une des pathologies les plus fréquentes. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par la personne dans cette archive en 1989.
Et moi non plus.
Mais,
on va pouvoir corriger tout effectivement, ça.
Mais la maladie de Meynière, effectivement, c'est, alors, je sais pas pourquoi, c'est une des maladies les plus connues, souvent, ça a été très, très vulgarisé. C'est pas du tout l'atteinte de l'oreille interne la plus fréquente, hein. Pas du tout. Même si on connaît pas exactement les mécanismes, physiopathologiques qui conduisent à la maladie de Meynière, on sait que on a bien une atteinte. Des liquides et des capteurs qui sont dans l'oreille interne, au niveau de l'appareil vestibulaire qui détecte les mouvements et au niveau de la cochlée qui permet d'encoder les sons. Donc ça, c'est une des nombreuses atteintes possibles de l'oreille interne. Et donc c'est une maladie qui se caractérise par donc des vertiges, des acouphènes, une baisse de l'audition. Comme symptômes principaux. Et c'est véritablement donc une atteinte de l'oreille interne. Et effectivement, cette maladie qui évolue par crise peut voir son intensité, on pourrait dire, modifiée par des facteurs externes qui peuvent être interprétés, comme le dit le monsieur, par des facteurs psychologiques, c'est-à-dire des périodes de stress, des choses comme ça. Donc, ils viennent moduler la fréquence des crises ou l'intensité des crises, mais on a véritablement une maladie organique qui a des substrats neurophysiologiques au niveau de l'oreille.
La prévalence, hein, c'est d'un peu moins de 50 cas par 100 000 habitants, avec une légère prédominance féminine. Alors, dans quel cas, hein, on voit des vertiges qui peuvent être impliqués dans d'autres pathologies, Mathieu Bernec?
On reste sur les pathologies de l'oreille interne. Hein. Il peut y avoir en fait tout un contexte, par exemple inflammatoire. Alors on parle de névrite, par exemple, il serait une inflammation du nerf. On peut avoir des petits accidents ischémiques au niveau de l'oreille. On peut imaginer aussi des traumatismes. Hein, on se retrouve avec des vertiges suite à des traumatismes crâniens. Donc il peut y avoir différentes causes sous-jacentes. Alors ce qui est important en fait de comprendre, c'est que distinguer ces causes, c'est pas évident. C'est pas évident parce que l'oreille interne, comme on l'a dit, ce sont des organes qui sont nichés, hein, assez profondément dans le crâne. Ils sont pas faciles à observer. On arrive à aller voir le tympan et on peut accéder assez facilement à l'oreille. Autant l'oreille interne reste masquée, il faut faire de l'imagerie et disons qu'il y a des questions de résolution ensuite, hein, de qu'est-ce qu'on arrive à voir sur l'imagerie. Il y a beaucoup de recherches en fait dans ce domaine, mais finalement lorsque quelqu'un se retrouve avec des vertiges, les médecins sont assez démunis pour aller voir les causes au niveau de l'oreille. Donc c'est beaucoup en fait basé sur les symptômes qui sont rapportés par le patient et sur les atteintes qu'on arrive à mesurer là au niveau des voies réflexes.
Et on peut aussi dire que avec l'âge, tous les systèmes impliqués dans l'équilibre sont susceptibles d'en prendre un coup. Alors pourquoi justement ce sens de l'équilibre va-t-il devenir des enjeux de santé publique ? Restez avec nous.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde ferai pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, est-ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux? Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux? On pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y a qu'elle sur terre. Y a qu'elle pour faire tant de mystère. Mais pour nous, y a pas de problème.
Étienne Dao, mon manège à moi, en direct sur France Culture, car on parle du sens de l'équilibre avec nos deux invités du jour, Mathieu Beranek, neurophysiologiste et directeur de recherche au CNRS, responsable d'équipe à l'Université Paris-Cité, et Christophe Lopez, neuroscientifique, spécialiste du système vestibulaire, directeur de recherche au CNRS dans l'équipe corps et multisensorialité. Parfois qualifié de sixième science, l'équilibre résulte donc d'un accord complexe entre différents systèmes physiologiques, fruit d'une longue histoire évolutive. Il est également perturbé dans de nombreuses situations. Parlons de nos sociétés vieillissantes où les troubles de l'équilibre vont devenir des enjeux de santé publique. Les chutes, largement engendrées par des troubles de l'équilibre, sont la première cause de décès accidentels chez les 65 ans et plus, et la deuxième cause en général derrière les tumeurs. Christophe Lopez, en effet, avec l'âge, on est bien obligé de mieux étudier, de mieux se tourner vers ce sens-là.
Oui, tout à fait. C'est un sens, ce sixième sens dont nous avons parlé, c'est un sens qui vieillit également, comme la vision, comme l'audition. Donc, les auditeurs, les auditrices ont certainement entendu parler de la baisse de la vision. C'est le vieillissement normal, la presbytie, par exemple. On connaît aussi la presbyacousie, vieillissement normal des fonctions auditives. Hein. Ça veut dire que, avec l'âge, malheureusement, en moyenne, les fonctions auditives diminuent. Et on a un terme équivalent qui a été donné il y a quelques années. On parle de presbyvestibuli pour désigner cette baisse des fonctions vestibulaires avec l'âge. Donc, à nouveau, il s'agit du vieillissement normal des fonctions vestibulaires. Donc, on sait, grâce à des études qui ont été réalisées, que c'est lié à une perte du nombre de cellules dans l'oreille interne, une perte de nombre de neurones dans le nerf vestibulaire, puis globalement aussi une atteinte du cerveau, des différentes structures qui traitent l'information vestibulaire. Donc, on doit s'adapter au cours du vieillissement avec le vieillissement des différentes fonctions sensorielles qui permettent de maintenir l'équilibre dont on a parlé, donc le système vestibulaire, la vision et aussi la proprioception musculaire et tactile, les informations notamment qui viennent de la plante des pieds, qui nous aident à nous maintenir debout. Donc dans l'ensemble, il faut trouver de meilleures stratégies d'équilibration avec ces systèmes sensoriels qui sont défaillants au cours du vieillissement.
Mathieu Beranek.
Oui, alors il faut bien dire qu'au cours de la vie, en fait, l'équilibre est en permanence en train de s'adapter. Dès qu'on fait ses premiers pas, en fait, on apprend à avoir l'équilibre, mais avec un...
On voit que l'apprentissage de la marche est aussi une négociation avec la chute en permanence.
Tout à fait. Et en fait, pendant les premières années de la vie notamment, le corps change énormément. Et malgré ça, on arrive à maintenir l'équilibre avec un corps. Alors, si vous pensez à l'adolescence, là, on a un corps qui change énormément de forme, des os plus longs, des muscles plus forts. On arrive à maintenir l'équilibre de manière constante. Et ça, en fait, ça demande au cerveau d'être capable de toujours s'adapter à des entrées sensorielles qui sont changeantes. Et puis penser que, je sais pas, on change de lunettes. Hein, et lorsqu'on met des nouvelles lunettes, eh ben, on doit aussi s'adapter rapidement, en fait, au fait qu'on a des informations visuelles qui sont différentes. Et donc, cette capacité-là à s'adapter, elle est maintenue tout au long de la vie. Lorsqu'on arrive à un âge plus avancé, eh ben, on a, comme l'a dit Christophe, une perte d'acuité sensorielle au sens large. Hein, donc, le fait d'avoir la vue qui baisse, ça n'aide pas l'équilibre. Hein, le fait peut-être d'être moins fort musculairement, disons, ou moins dans le mouvement, ça n'aide pas l'équilibre. Et donc, pour maintenir l'équilibre, il faut réussir à tirer parti de l'ensemble de ces sens qui collaborent pour le permettre.
Autre aspect lié à l'âge, Christophe Lopez, par rapport à la ménopause, les vertiges sont particulièrement fréquents à ce moment-là de la vie, et même aussi au moment de l'arrêt d'une contraception médicamenteuse. Ça, c'est quelque chose d'assez relativement neuf dans la recherche, c'est que c'est lié entre système vestibulaire et circulation hormonale.
Oui, on commence à mieux comprendre maintenant les liens qui peuvent exister entre les hormones et les vertiges. Alors, on pense que c'est une des raisons pour lesquelles les vertiges sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas après la ménopause. Et c'est en particulier lié à deux raisons. D'abord, il y a des récepteurs à certaines hormones sexuelles qui sont au niveau de l'oreille interne. Et la deuxième chose, c'est que une partie des capteurs de mouvement dont nous avons parlé, les capteurs qui sont sensibles aux translations et à la gravité, donc l'utricule et l'ossicule, sont des capteurs, je vous le disais dans l'introduction, qui comportent des particules assez denses qui sont soumises aux forces de la gravité. Et il se trouve que ces particules sont des cristaux de calcaire, si on veut, des cristaux de carbonate de calcium. Et donc, le métabolisme de ces cristaux de carbonate de calcium, ben, ça suit le métabolisme du calcium dans le corps. Et c'est quelque chose qui est affecté par la ménopause avec les modifications de certaines hormones, comme on le sait. Donc, on voit un peu cette influence hormonale sur la structure de ces petits cristaux au niveau de l'oreille. Donc, ça explique aussi probablement pourquoi chez les femmes on a plus de vertiges qu'on appelle des vertiges positionnels paroxystiques bénins, ce qu'on appelle souvent dans le langage courant la maladie des cristaux. Donc c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, probablement en lien avec ces modifications du métabolisme du calcium.
L'enjeu actuel, c'est de mieux comprendre comment le sens de l'équilibre se construit et se renforce. Et c'est aussi le sujet de notre reportage du jour. Pour comprendre l'origine et les mécanismes des troubles du système vestibulaire, des études en biophysique cherchent à le stimuler en conditions expérimentales contrôlées. Pour le reportage du jour, nous sommes donc allés au Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine de l'Institut Pasteur pour découvrir comment on teste des patients qui souffrent de troubles de l'équilibre. Et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, au sein de l'Institut de l'audition sur le campus de Pasteur, où on accueille des patients pour mesurer leur perte d'équilibre. Des expériences qui se réalisent au moyen d'un arsenal d'équipements, fauteuils rotatoires, casques de réalité virtuelle ou moniteurs eye tracking qui testent et stimulent le système vestibulaire. L'approche mise au point ici est de se focaliser sur la réponse oculaire à l'exécution de mouvements linéaires ou bien angulaires en simulant des gestes du quotidien, des réponses qui sont corrélées directement au fonctionnement du vestibule. Grégory Giranton, ingénieur de recherche, mène ses examens à travers le projet Audiogenage pour déterminer l'origine de la perte d'équilibre et ainsi améliorer nos connaissances de ce système sous-étudié.
Nous, on est des spécialistes en recherche sur l'audition et on apporte des solutions de tests innovantes sur les aspects auditifs pour essayer d'aller trouver de nouveaux moyens de mesurer le déficit auditif sur des pathologies qui sont encore méconnues.
Concernant les troubles de l'appareil vestibulaire, quelles sont les méthodes employées ici pour sonder cet appareil et aussi examiner ses défaillances quand il y a pathologie ?
Alors, les méthodes qu'on utilise sont principalement basées sur ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire, qui est donc un réflexe musculaire qui, en fait, quand vos vestibules, parce que vous en avez deux, comme vous avez deux oreilles, vous avez deux vestibules, quand votre vestibule détecte des mouvements, il va venir piloter vos yeux, finalement, pour anticiper les mouvements et que le regard ne soit pas flou. Donc ça détecte le vestibule très rapidement les changements de posture, quand vous tournez la tête, quand vous allez vous baisser, vous relever, etc., pour que vos yeux anticipent les mouvements et viennent finalement fixer votre vision vers la cible que vous voulez atteindre. Donc là, nous sommes au sous-sol où nous avons fait construire des salles sur mesure pour nous, pour être vraiment dans des conditions acoustiques extrêmement bonnes. Donc les salles sont isolées.
On a ça s'entend.
Ça s'entend. On a 5 mètres sous plafond. Donc c'est vraiment des environnements qui ont été construits pour nous, sur notre cahier des charges, et qui nous permettent de faire nos mesures dans de bonnes conditions.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette salle ? On sent que le son est mat.
Ah oui, celle-là, elle est mat. Elle est traitée sur 3 côtés, donc effectivement, c'est déjà très matifié. Il n'y a pas de réverb, il n'y a pas d'écho dans cette salle. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette salle ? On va trouver principalement différents modes de stimulation de notre vestibule. Donc, on va trouver une chaise, par exemple, qui tourne sur l'axe, autour de l'axe vertical, qui va venir nous permettre de créer des stimulations donc des deux vestibules en ne faisant que ça comme mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez faire un mouvement en contractant d'autres muscles, vous allez être assis sur la chaise, vous n'allez absolument pas bouger, tête fixe, donc votre tête est posée contre un appui-tête, et on va venir faire tourner cette chaise tout en mesurant votre vestibule. Donc vous, vous êtes plongé dans le noir complètement, vous avez un masque qui vous fait le noir absolu, et on filme votre pupille, et ce qu'on va venir détecter, c'est les mouvements, donc les mouvements que vont faire vos yeux, qui sont le reflet des mouvements qui sont détectés par votre vestibule. Donc on a des lunettes avec une caméra, qui est donc une caméra infrarouge, parce qu'on va être dans le noir complet, donc on ne pourra pas suivre sans ça.
Vous chaussez les lunettes et on peut voir sur l'écran votre œil.
Vous voyez mon œil en infrarouge, et si je fais des mouvements de tête sur le plan horizontal, voilà, mon œil doit battre de gauche à droite.
Effectivement, on voit votre œil qui bat de gauche à droite.
Grâce aux mouvements qui sont détectés par mes vestibules. Donc moi, j'ai des lunettes, je suis dans le noir complet. Néanmoins, mes yeux font des mouvements de battement de gauche à droite.
Et essayez de pencher la tête vers l'avant et de la redresser.
Ça marche aussi, effectivement.
Et on voit votre œil qui fait les mouvements verticaux cette fois.
De haut en bas. Donc on va venir faire, par exemple, tourner cette chaise sur l'axe, autour de l'axe vertical. Donc vous n'allez absolument pas bouger, vous êtes totalement fixe. Et vos yeux vont venir battre finalement vers la gauche ou vers la droite, en fonction de comment on va tourner la chaise.
Et vous pouvez monitorer du coup avec les écrans le feedback ?
Exactement. Et nous, on a des systèmes cliniques avec lesquels on va venir monitorer, donc avec une caméra, le mouvement que font les yeux et détecter ces mouvements-là, mesurer très précisément l'amplitude des mouvements, le nombre de battements, sachant que la chaise, elle mesure aussi, elle a un accéléromètre, elle, pour le coup, physique, qui mesure aussi le déplacement qu'on va faire vraiment avec la chaise et les accélérations, les vitesses, etc. Donc, ce qu'on va venir comparer, c'est les mouvements qui ont été faits, par exemple, sur cette chaise rotatoire par rapport aux mouvements qui ont été détectés par vos vestibules, qui doivent être en exacte...
coïncidence.
En exacte coïncidence, exactement. Donc, ça, c'est des mouvements très écologiques. On peut faire des mouvements qui sont très proches de ce que vous allez faire dans la réalité sur ce genre de chaise. Quand vous allez vous tourner pour regarder à gauche ou à droite, c'est très écologique en termes de vitesse de mouvement. On a des choses qui sont beaucoup moins proches finalement de stimulation qui, dans votre quotidien, qui peuvent consister par exemple à envoyer de l'eau chaude ou de l'eau froide contre votre membrane tympanique.
C'est pas très sympathique.
Non, c'est pas très sympathique. Et quand on fait ça, on va venir, finalement, comme l'eau est un petit peu plus froide que votre température corporelle ou un petit peu plus chaude, soit on va venir endormir avec l'eau froide, soit on va venir exciter l'un des deux vestibules par une stimulation thermique. Contrairement à la chaise rotatoire, là, on fait vraiment oreille par oreille. Donc, vous pouvez avoir une sensation de vertige parce que vous allez avoir une information contradictoire entre vos deux vestibules. Il y en a un qui ne détecte absolument rien, et il y en a un qu'on est en train d'irriguer qui, lui, va détecter un mouvement. Et ça, effectivement, ça fait une sensation de vertige. Donc, c'est une stimulation sur plusieurs minutes, finalement. Ce n'est pas écologique comme condition, mais ça permet de tester d'autres choses sur le vestibule qui sont les phases lentes, finalement, qui sont d'autres types de cellules. Votre vestibule, c'est un petit peu comme votre audition. Votre audition, il est bien admis que vous avez... On parle souvent d'un espèce de gigantesque piano où on va avoir des fréquences. Ce n'est pas les mêmes zones qui travaillent pour les fréquences graves et pour les fréquences aiguës. Et bien finalement, le vestibule, c'est la même chose. On a des cellules qui travaillent pour les mouvements très lents et des cellules qui travaillent pour les mouvements très rapides. Ça ne va pas être exactement les mêmes, elles ne sont pas exactement composées de la même manière. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, nous notamment, au sein de notre étude, c'est qu'on n'a pas forcément le même vieillissement dans tous les canaux. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais par exemple, dans les canaux postérieurs, donc sur tout ce qui va être détection de mouvement, enfin de rotation au bas, quand vous allez lever ou baisser la tête, ce qui malheureusement en plus c'est souvent le cas, dès qu'on va faire ses lacets, regarder en l'air justement pour attraper un objet ou des choses comme ça, qui sont souvent chez la personne âgée des gestes à risque de chute, et bien effectivement on a une baisse d'activité plus marquée dans ces canaux-là, dans ces canaux postérieurs, que dans les canaux horizontaux par exemple, qui sont visiblement mieux préservés avec l'âge.
Merci Céline Lozen. Nos reportages qui nous font sortir du studio pour découvrir le travail de la recherche scientifique en cours, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Christophe Lopez, ce que disait aussi Amimo ce reportage, c'est qu'il y a peu de spécialistes, peu de moyens, alors que c'est un problème de santé publique important. Et on a aussi, on fait aussi face au fait que beaucoup de patients mettent du temps avant d'être adressés à un ORL. On fait aussi face à une grande errance thérapeutique dans ce domaine.
Oui, c'est exact. C'est lié au fait que il y a énormément de patients qui sont atteints de troubles de l'équilibre. Les études épidémiologiques indiquent que c'est entre 15 et 30% des adultes qui vont aller consulter, qui vont avoir un trouble de l'équilibre ou des vertiges dans la vie. Donc jusqu'à un tiers de la population adulte, ce qui est assez conséquent. Donc vous imaginez que dans le système de santé actuel, avec le manque de spécialistes dédiés pour les troubles de l'équilibre, il puisse y avoir parfois une difficulté à être pris en charge. Alors, ça peut être un problème parce que ça peut entraîner chez certaines personnes une transformation en vertige un peu plus chronique, un peu plus invalidant pour certaines personnes. Malgré tout, il y a un très très bon réseau en France d'ORL et de personnel paramédical qui prennent en charge les troubles de l'équilibre au sens général. Ça inclut aussi les kinésithérapeutes et les orthoptistes, notamment, entre autres. Donc, en France, il y a historiquement, il y a une très forte tradition de la prise en charge des vertiges avec un très très bon réseau. Mais il est vrai que la difficulté, comme on l'a dit, à diagnostiquer précisément la cause des vertiges fait que certains patients se retrouvent à passer d'un spécialiste à l'autre parce qu'il est difficile d'identifier clairement l'origine de la maladie.
Christophe Lopez, une perte d'équilibre, une chute, c'est un facteur très grave de handicap, voire de décès. Il faudrait arriver à mieux détecter les personnes à risque. Est-ce que on peut envisager des dépistages comme on l'a pour l'audition, par exemple ?
Ça pourrait être fait, effectivement, mais il y a une très très grosse variabilité interindividuelle dans les capacités d'équilibre au cours du vieillissement. Donc, peut-être qu'il ne paraît pas nécessaire de tester tout le monde, mais ce qu'on sait, c'est que une personne qui a chuté a des très grandes chances de chuter à nouveau. Donc, pour ces personnes-là, on pourrait imaginer un dépistage, un bilan plus systématique et une prise en charge plus systématique des troubles de l'équilibre. Puisqu'il est possible, comme on le disait, même si les fonctions sensorielles sont vieillissantes, il est possible d'entraîner le cerveau à utiliser les informations sensorielles qui restent. Et en effet, il y a des études récentes qui ont été conduites par des collègues de Berne, de l'université de Berne en Suisse, qui montrent que si on entraîne des personnes vieillissantes à détecter des mouvements faibles lorsqu'on les déplace, par exemple, sur un fauteuil rotatoire, alors on peut améliorer leur équilibre. Donc, à nouveau, là, on peut s'entraîner à mieux utiliser l'information de mouvement qui reste pour avoir un équilibre de meilleure qualité.
Alors comment les cosmonautes et les patineurs artistiques peuvent-ils être de formidables terrains d'études ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
direct sur France Culture avec Mathieu Béranec et Christophe Lopez. Nous parlons de ce sens de l'équilibre et du système vestibulaire, de ces troubles. Ben, Mathieu Béranec, comment justement les sportifs de haut niveau peuvent-ils nous aider dans la thérapie des vertiges et des troubles de l'équilibre? Je sais pas, les patineurs artistiques, ils sont donc capables de faire 342 rotations par minute.
Eh ben, ils peuvent nous aider en nous montrant que on peut être maître de son équilibre et faire des choses absolument incroyables et que on n'a pas de limite de ce point de vue, à condition de permettre au cerveau d'apprendre hein, à faire ces choses à travers le mouvement, parce que un patineur artistique ou actuellement il y a les Jeux Olympiques, on voit des skieurs faire des choses incroyables. Ça prend beaucoup d'entraînement et de volonté. Et quand je dis de l'entraînement, c'est de l'entraînement au mouvement. Ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut insister. C'est que le sens de l'équilibre dépend du fait que nous sommes en mouvement et que nous restons en mouvement. Donc, vous parliez des pathologies. Eh ben, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, hein. Lorsqu'on a des problèmes d'équilibre, le piège qui se referme sur les patients, c'est la, comme disait Christophe, la chute et la rechute, la peur de la rechute. Il y a de l'anxiété. Et il faut lorsqu'on est anxieux du fait de rechuter, on a tendance à moins bouger. Et ben c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut rester en mouvement et prendre exemple sur ces sportifs de haut niveau qui nous montrent que leur cerveau peut nos cerveaux peuvent apprendre à faire des choses folles.
Voilà, donc remettre des patins, c'est un peu ça. La leçon à retenir. Les patineurs, d'ailleurs, tendent même à avoir un système vestibulaire moins sensible que la normale. Je disais ça pour expliquer justement comment ces toupies humaines s'y prennent pour.
Et parce que ce qu'ils apprennent, c'est ils apprennent à pouvoir prévoir ce qu'ils vont ressentir dans le fait de se mettre en mouvement de cette manière-là. Ils apprennent à anticiper le fait que lorsqu'ils vont décider de tourner à telle vitesse, ils vont avoir ce ressenti vestibulaire, ils vont avoir ce ressenti proprioceptif. Et donc, puisqu'ils s'exposent à ce mouvement, ils apprennent à leur cerveau à anticiper les conséquences de ce mouvement. Et ça, c'est le fait que pour notre cerveau a besoin d'être actif pour pouvoir savoir ce qu'il va générer comme sensation en se mettant en mouvement.
Et pour continuer à rester en mouvement, du côté de l'exploration spatiale, ça aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement regardé par les chercheurs qui étudient le système vestibulaire, Mathieu Béranec.
Alors oui, ça nous intéresse. Alors déjà, il faut dire que le système vestibulaire a un intérêt pour les agences spatiales. C'est historique parce que dès qu'on est allé dans l'espace, on s'est rendu compte qu'il manquait quand même quelque chose de fondamental, qui est la gravité, et que la gravité est essentielle à l'orientation spatiale, au fait de réussir à se repérer. Et donc les agences spatiales hein, ont toujours été des agences qui ont soutenu, qui ont fait des recherches sur le système vestibulaire. Ensuite, les spationautes, lorsqu'ils arrivent dans l'espace, ils ont le mal de l'espace. Ils ont beau être jeunes, surentraînés, très très bien préparés, la première exposition à un milieu sans gravité et à nouveau cause de cinétose. L'espace, ça montre bien également les capacités du cerveau à s'adapter à un nouvel environnement et à reconstruire des correspondances entre les différents sens, même en ayant perdu le référentiel commun qui est la gravité, le sens du haut et du bas.
Dans quelques secondes, on retrouve la chronique avec science, mais merci, un grand merci à vous deux pour ce bel exercice de funambule. Tout de suite, on retrouve Alexandra Delbo, mais j'invite nos auditeurs à podcaster notre précédent épisode qui s'appelle Proprioception, le sens de la marche, pour également un peu mieux comprendre ce sens-là. Tout de suite, on change complètement de sujet avec Alexandra Delbo qui déboulonne les fake news.
Le Le régime cétogène peut-il soigner la schizophrénie? C'est ce qu'a affirmé le 11 février dernier le ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr. Derrière ce nom de cétogène se cache un régime, et c'est un petit peu contre-intuitif pour un régime riche en graisse. Il consiste à réduire drastiquement les glucides, sucre, riz, pâtes, mais aussi une bonne partie des légumes et fruits, au profit de beaucoup de gras. Puisqu'il n'y a plus de glucides, le corps doit changer son métabolisme et se servir des graisses plutôt que du glucose comme carburant. C'est ce que l'on appelle une cétose. Évacuons d'emblée la question de la perte de poids. Ce n'est pas un régime recommandé comme stratégie durable à ce niveau-là. En revanche, il est vrai qu'il a été étudié dans certaines pathologies neurologiques, notamment l'épilepsie. Boris Chaumette est psychiatre et enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité et à l'INSERM et directeur scientifique adjoint du programme français de psychiatrie de précision.
Ça vient initialement du fait que quand on a un régime cétogène, on change les voies du métabolisme. On est beaucoup plus sur des molécules grasses qui vont être absorbées, et donc ça va passer par certaines voies métaboliques et éviter d'autres voies, type la mitochondrie. Alors, les mitochondries, ce sont des usines énergétiques. Donc, en fait, elles captent certains nutriments et elles fabriquent de l'énergie au sein de la cellule. Quand les mitochondries sont dysfonctionnelles, elles peuvent générer du stress oxydatif et favoriser la mort cellulaire. Donc, une des vertus du régime cétogène, c'est de chanter, d'éviter cette mitochondrie et que les nutriments aillent dans d'autres voies et donc ne passent pas par cette usine défectueuse. Donc ça, ça a été montré dans des mitochondriopathies, des atteintes de la mitochondrie, c'est des maladies très rares mais qui peuvent avoir des conséquences importantes. Et puis dans l'épilepsie, il y a eu des essais cliniques qui ont montré aussi des vertus de ce régime, tout simplement parce qu'on diminue le stress oxydatif.
Dans ces maladies qui provoquent de l'épilepsie, le régime cétogène peut réduire le nombre de crises et améliorer certains symptômes neurologiques. Pour l'une d'entre elles d'ailleurs, le déficit en GLUT1, c'est même un traitement de référence. Mais qu'en est-il de la schizophrénie? Pour une fraction de patients, certains scientifiques soupçonnent également des anomalies de la mitochondrie. C'est ce parallèle qui a conduit à faire du régime cétogène une piste actuelle de recherche pour la schizophrénie. Mais, évidemment, il y a un mais, Kennedy dit dans sa prise de parole au Tennessee State Capitol, évoque les travaux récents d'un chercheur, vraisemblablement Christopher Palmer. Ce scientifique a bien publié une étude en juin 2019, mais elle concerne seulement 2 patients.
Soyons honnêtes, 2 cas, ça veut dire qu'il y a 2 patients qui, selon lui, ont bénéficié de ce régime cétogène. Alors, des patients qui bénéficient de certaines approches, ça c'est toujours intéressant, mais ça ne fait pas une loi pour autant. Et l'idée est que ensuite on puisse répliquer ces résultats, déterminer les bons patients qui vont bénéficier de ce type de régime et faire des essais cliniques. Dans le cadre du régime cétogène et de la schizophrénie, les essais cliniques, ils sont en cours. Donc il y a plusieurs essais qui ont lieu, notamment aux États-Unis, pour savoir si ce régime a un réel bénéfice dans la schizophrénie. Là, à partir de 2 cas, on ne peut rien en conclure. En plus, ce sont des personnes qui ont reçu le traitement, ce qu'on appelle en ouvert, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin n'étaient un aveugle de ce qui se passait. Donc forcément, ça biaise un peu le résultat, il peut y avoir un effet placebo. Donc là, on est devant ce qu'on appelle un overstatement, une surinterprétation de résultats extrêmement limités.
Ces déclarations s'inscrivent dans une vision plus large défendue par Robert Kennedy Jr. pour sa campagne « Take back your health », « Reprenez en main votre santé ». Il y a chez lui à la fois une recherche permanente de causes extérieures à des maladies dont la part génétique et biologique est importante, comme dans l'autisme et la vaccination, ou plus récemment dans l'autisme et la prise de paracétamol en étant enceinte. Et puis, on note également la présence d'un discours nutritionnel qui encourage une alimentation très riche en graisses animales, aux antipodes donc des recommandations de ces dernières décennies. Peut-être qu'un jour, pour des profils très spécifiques de patients, le régime cétogène pourrait devenir un outil. C'est la logique de la médecine personnalisée ou de précision, mais le régime cétogène ne soignera certainement jamais cette maladie. La schizophrénie est une pathologie chronique. Les traitements actuels améliorent nettement la santé et le quotidien des patients, mais on n'en guérit pas pour autant.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Louise Ormond-Cégy. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Alex Dong, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.